Je suis atterré. Jamais je n'aurais imaginé que l'événement le plus merveilleux de ma vie déboucherait sur une pareille détresse. Tout avait commencé comme un rêve exaucé. L'excitation rassurante de papa à l'aéroport, le trajet dans son nouveau 4x4 beaucoup mieux suspendu que le précédent, le déjeuner sur la terrasse du petit chalet de souvenirs dominant les pentes de Valberg, où je ne viens qu'en hiver d'habitude, la confiance en béton armé du professeur Piolle, un ancien soupirant de maman, mon installation au CHU dans une chambre où je sentais le soleil sur ma peau et, surtout, la sérénité de Jules qui savait que ma présence au milieu des blouses blanches signifiait pour lui vacances. Une étape importante de son dressage, bien ancrée dans son cerveau de gardien responsable. Il déléguait. J'étais en de bonnes mains, couché, bien sage, il pouvait sans remords aller se baigner avec papa et sa nouvelle copine dans les vagues de Cagnes-sur-Mer et les gorges du Science, pendant que les blouses blanches veillaient sur moi. L'opération s'est parfaitement déroulée. Aucune douleur, aucune séquelle d'anesthésie. Le soir même, je distinguais des formes en mouvement. À 6 heures du matin, l'infirmière a surgi en entendant mon hurlement. Octant, en larmes, je lui ai crié que le mur était beige, que le tableau rectangulaire représentait un cheval au soleil couchant et qu'elle était rousse, rousse, rousse. Le flot d'informations impossibles à endiguer se déversait en crise de nerfs. Peu à peu, les tranquillisants ont remis en place le bonheur qui me submergeait, et la vie a repris calmement les couleurs qu'un jet d'acide m'avait fait perdre en 15 secondes, l'année de mon bac. Le cauchemar a commencé le lendemain. Mes analyses, mes examens et mes progrès, aussi bien pour le champ visuel que pour l'accommodation, avaient décidé le professeur Piolle à me déclarer sortante, malgré les grains de sable qui continuaient à tourner quand je ne mettais pas mes lunettes noires. Sur le parking de l'hôpital, papa jouait avec Jules. Quand il m'a vu, il a fait une chose qui m'a bouleversé. C'est à moi qu'il a lancé la balle du chien. Je l'ai attrapé au vol. Il a couru pour me sauter au cou. Jules, lui, a stoppé son élan. Je le fixais dans les yeux, sourire figé. Je me suis accroupi devant lui. « Comme tu es beau, mon chien, comme tu es beau, 1000 fois plus beau que je t'imaginais !» Il a reculé la queue basse. Je me suis tu, le souffle en suspens, les mains ouvertes pour qu'il vienne contre moi. Après 10 secondes de tremblement, il s'est approché, très lentement, en grognant. Je ne bougeais pas. Je l'ai vu tourner autour de moi, la truffe aux aguets. Il m'a reniflé, il a sorti la langue pour me lécher, la rentrée avant même le contact. Un flot de perceptions contradictoires passait dans son regard. Son attitude faisait vibrer tout son corps. J'ai brusquement pensé à René, le plantant de RTL. Quand il était revenu de chimio après un cancer de la gorge, sa vieille épagneule lui avait fait la fête jusqu'à l'instant où elle avait entendu sa voix. Ce n'était plus lui. Elle le reconnaissait, c'était son odeur, son image, mais ce n'était plus lui. Mon labrador éprouvait le même choc. Alice, qui marchait toute seule, ouvrait une porte sans lui, attrapait sa balle au vol, le regardait dans les yeux, ce n'était plus Alice. Brusquement, il a couru jusqu'au 4x4 et s'est mis à griffer la carrosserie. Papa s'est précipité pour lui ouvrir le haillon arrière. Jules a plongé parmi les cannes à pêche, les palmes, les épuisettes. Mon Dieu, tous ces objets qui remontaient de ma mémoire avec leur nom, leur teinte, leur contour oublié. Et il est revenu à fond de train vers moi, son harnais entre les dents. Il l'a déposé à mes pieds. Pas comme une offrande, un hommage, un rituel, comme un ordre. J'ai ramassé le harnais, je le lui ai attaché à tâtons, essayant de retrouver mes gestes d'avant. Je me suis relevé en attente, et j'ai laissé Jules me guider vers la voiture. Sa queue a remué 3 fois par réflexe, puis s'est collée contre sa patte arrière gauche. Les doigts crispés sur le guidon du harnais, j'ai fermé les yeux. C'était plus simple. Il m'a conduite jusqu'à la portière passager. J'ai cherché la poignée en tâtonnant du mauvais côté. Son museau n'a pas orienté ma main. Le lendemain, au réveil, il avait oublié l'incident. Un mauvais rêve. ma façon de le caresser en le contemplant malgré moi, l'a replongé aussi sec dans sa nouvelle réalité. Il a bondi du lit et est allé se recroqueviller dans son panier. Rien n'a pu le faire sortir. Ni le fumet du barbecue, ni le chat du voisin, ni les clarines des vaches. Le monde avait perdu ses règles et il ne voulait plus rien sentir, voir, entendre. Ce n'est qu'au milieu de la nuit suivante qu'il m'a rejointe sous le drap. Je l'ai enlacée en pleurant. Je lui dis que c'était moi, que j'étais la même, que j'avais toujours autant d'amour pour lui, qu'il m'arrivait une chose extraordinaire, mais que ça ne changeait rien entre nous. Et je savais que c'était faux. Je n'allais pas redevenir aveugle pour lui redonner sa raison d'être. J'espérais que le retour à Paris dans son univers familier arrangerait un peu les choses, lui rendrait sa vigilance, son appétit, sa joie de vivre. Avec la meilleure volonté du monde, j'ai réintégré le temps du voyage mon statut de non-voyante. Embarquement prioritaire, fauteuil roulant, aucune initiative, mais lui ne se donnait pas la peine de jouer mon jeu. On ne ment pas à un chien. Il sentait que désormais, je pouvais me débrouiller sans lui. Il avait cessé de voir pour deux. Il n'avait plus besoin de réagir à ma place, d'anticiper en fonction de mes réflexes, d'évaluer par rapport à moi les obstacles, les gabarits, les distances. Il ne tirait plus le guidon du harnais, il attendait que je le pousse. Comme un retraité à qui on ne la fait pas, il laissait l'impuissance et l'inutilité remplacer le savoir-faire. Dans l'escalator d'Orly, il s'est assis sans que je l'y invite. Au lieu de surveiller les marches en fer pour se tenir prêt à m'alerter dès qu'elle se rétracterait. Et brusquement, il s'est relevé, à mi-parcours, les pattes sur le caoutchouc de la rampe mobile, fixant par une trouée du béton le hall départ, où l'on apercevait la malle arrière d'une espèce de fiacre en bois vert clair. Il a gémi, la tête en extension. Quand un panneau de pub lui a caché la vue, il a voulu remonter les marches, je l'ai retenu. Il cherchait sans doute le vendeur de macarons qui l'avait libéré de sa cage. Mais ce n'était pas le moment d'aller en pèlerinage au niveau départ. 20 mètres plus bas, Fred devait nous attendre au milieu de la foule. Le choc a été rude. Je l'ai dissimulé de mon mieux sous l'émotion de nos retrouvailles. 6 ans d'amitié amoureuse, de week-end en commun, et c'est son élan vers moi qui, seul, m'avait fait mettre un nom sur ce visage. L'étreinte m'a renvoyé aussitôt dans le passé du parfum, du toucher, de la tendresse, mais le mal était fait. « Tu me voyais plus jeune », a traduit Fred, qui n'a d'illusion sur rien. J'ai gagné du temps en invoquant le flou provisoire et les lunettes noires que je devais garder encore 8 jours. « Et toi, tu t'es trouvé comment ?» Sa question était posée sur un ton si maso que je me suis contenté de répondre par une moue incertaine. « Oui, Fred. » Je m'étais trouvée belle. Pardon. Je m'étais trouvée sexy, rayonnante, sympathique. Si différente de l'ado impatiente que tout le monde énervait. La tête à claque trop mûre qui s'enlaidissait par fierté, de peur qu'on la confonde avec les poufs de sa classe. Les yeux dans les yeux, malgré les taches tournantes et les problèmes de mise au point, je me suis plu, dès le premier miroir. À défaut de me reconnaître, je me redécouvrais. La femme que j'étais devenue devait tout à son handicap, je sais. Mais j'avais envie que Fred m'aime pour autre chose que nos souvenirs communs. Qu'allions-nous devenir sans la dépendance et la confiance aveugle? Affectivement aussi, il fallait que j'accommode. On dépose le chien et je t'emmène fêter ça, mon ange, d'accord? J'ai réservé au gastro de la Tour Eiffel pour que tu aies tout Paris sous tes yeux. Un autre soir, si ça t'ennuie pas. J'ai encore très mal au crâne et Jules n'est pas dans son assiette.
« Ben ouais, tu te retrouves au chômage, pépère !»
a plaisanté Fred en lui labourant le poitrail, avec cette manie d'appuyer pile où ça fait mal pour dédramatiser.
« Vous préférez dormir seul, c'est ça ?»«
C'est pas contre toi. »«
J'espère bien. D'ailleurs, je me lève à l'aube demain. Comme cadeau pour ta guérison, je m'offre un lifting facio-temporal. »
J'ai souri poliment dans l'écho de son éclat de rire. Je n'étais pas dupe, c'était moins de l'humour, une façon de me tester. Quand ma valise est arrivée sur le tapis, j'ai fait exprès de ne pas la reconnaître, par égard pour Jules.
mais il regardait ailleurs, déconcentré malgré son harnais. Il regardait à York dans les bras d'une jeune fille. Lui qui avait toujours pris un plaisir de chasseur à débusquer mes bagages du premier coup. Fred a compris le problème et laissait une deuxième chance au chien, avec un petit coup de semelle en douce quand la Samsonite grise constellée d'étoiles rouges est repassée devant lui. Pas de réaction. Sans faire de commentaire, Fred a pris la valise et nous a précédés jusqu'au taxi qui nous attendait face à la porte F. On a échangé des caresses et des baisers discrets sur l'autoroute, et puis son téléphone a sonné et les problèmes d'événementiel, de budget, de retombées presse lui ont pris la tête jusqu'à la rue de Vaugirard. Jules nous tournait le dos, roulé en boule sur le tapis de sol. Arrivé à l'appartement, avant même que je lui enlevé son harnais, il a foncé dans son panier et n'en a plus bougé. J'ai appelé le docteur Haussmann. Jacques Haussmann est un misanthrope comblé qui voit depuis toujours dans le chien d'excellentes raisons de mépriser l'homme. Quel bipède est capable de trouver son bonheur dans la loyauté, l'empathie, le don de soi, la transmission de pensée, jusqu'à ressentir les émotions de son maître comme une seconde nature? Au téléphone, il m'a répondu qu'il n'avait pas une minute jusqu'à son départ en vacances et qu'il revenait le 15 août. Je lui ai expliqué la situation en deux phrases. Il m'a donné rendez-vous le lendemain matin. Ses yeux de coquère et ses lèvres tombantes sous la barbe de 3 jours ont exprimé, le temps d'un bref sourire, qu'il était content pour moi du succès de la greffe. Puis il s'est occupé de Jules. Mais l'examen et les tests n'étaient pour lui qu'une formalité. Dès l'énoncé des symptômes, il avait établi son diagnostic et son traitement. Ses études de vétérinaire, son doctorat en éthologie et ses 30 ans d'expérience comme directeur de centre éducatif lui ont appris que les chiens qui perdent leur aveugle sont plus malheureux que la femelle à qui l'on retire son chiot.
Je sais les aider à surmonter un deuil, Alice, mais vous êtes mon premier cas de guérison.
Il ne voyait que 2 solutions au problème. Ou Jules, avec l'aide d'un antidépresseur, se résignait à devenir pour moi un simple animal de compagnie en pré-retraite, et quel gâchis, à 20 000 euros la formation. Ou bien, il retrouvait du jour au lendemain l'équilibre et l'estime de soi en étant affecté à un nouveau déficient visuel.
Vu la liste d'attente, j'hésiterai pas une seconde à votre place. Vous connaissez les chiffres. 1 500 chiens pour 62 000 aveugles. C'est un des meilleurs éléments à qui j'ai décerné le diplôme, Alice. Vous le savez.
J'ai baissé les yeux. Je me rappelais la soirée que nous avions passée à Aise, quand Jules avait obtenu son permis de guider. Je sais très bien que c'est grâce à l'intervention de Jacques Haussmann, alors président de la Fédération des Alpes-Maritimes, qu'on m'avait attribué le major de la promotion. Je l'avais ému. Aujourd'hui, il ne voyait plus en moi qu'un facteur de crise. Il a conclu
« Vous avez une nouvelle vie devant vous, à laquelle vouloir associer Jules ne serait que le fruit d'une sensiblerie égoïste. Alors qu'il lui reste au moins 5 ou 6 ans pour apporter assistance et bien-être à un aveugle qui lui rendra sa dignité, son bonheur de chien guide. À vous de choisir, Alice. »
Je suis reparti seul. C'est dans le bus que j'ai vraiment pris conscience de la situation. J'ai pleuré tout le temps du trajet, ressassant les réponses du docteur Haussmann à mes différentes objections.
« Bien sûr, vous l'aimez et il vous aime, mais ce n'était plus le problème. Votre autonomie soudaine a rompu l'essentiel du lien. »
Mais il peut s'habituer, non ?
Ouais, en se reniant, en violant son instinct, ses acquis, sa mission. Regardez ce qu'il vous a fait à Orly, le coup de la valise. Face à la perte de ses prérogatives, il a répondu par la rébellion, comme un môme. Il se sent inutile, humilié, rejeté, il fait la gueule, il provoque. Mais les couches profondes du dressage ne sont pas atteintes. Il faut simplement qu'il vous oublie.
Je n'aurai plus le droit de le voir ?
Je vous le déconseille, en tout cas les premiers mois.
Mais il va croire que je l'abandonne.
C'est le but. Ça s'inscrit dans la logique du reste. Mieux vaut une séparation aussi brutale que le choc émotionnel que vous lui causez à chaque regard.
Dès que vous serez sorti de ce bureau, je sélectionnerai sur ma liste d'attente le demandeur qui a le profil le plus éloigné du vôtre.
L'urgence de s'adapter à un nouveau dépendant, surtout dans un contexte radicalement différent,
arrêtera net sa dépression.
Mais on ne s'est jamais quitté.
Il vous manquera, évidemment. Et vous hanterez un temps ses rêves quand il sera au repos. Son réflexe amour à votre égard est intact, mais c'est le seul. Tout le reste est devenu pour lui incohérence, contradiction, perte de repères et d'identité.
Oubliez-le, Alice, dans son intérêt. S'il reste avec vous sans rien faire, il sera mort dans un mois.
J'ai signé l'acte de donation à la fédération qui me l'avait offert 7 ans plus tôt. Jamais je ne pourrai effacer le regard de Jules quand j'ai quitté la pièce. Il ne précédait plus mes mouvements depuis plusieurs jours, mais là, il ne s'est même pas levé pour me suivre. Il savait. La truffe au ras du tapis, les oreilles flasques, il me laissait partir, voler de mes propres yeux. Si c'était pour imprimer de telles images, à quoi bon revoir le jour ? Je suis descendu à l'arrêt de l'avenue Montaigne, complètement cassé. Malgré moi, je marchais le bras gauche tendu en avant, comme ces amputés qui ont mal aux membres qu'ils ont perdus. Je ne pouvais le dire à personne, mais revoir le monde toute seule, c'était tellement plus dur que de ne rien voir à deux, surtout au moment d'affronter les dizaines de personnes qui allaient fêter ma renaissance. J'ai remonté le trottoir de la rue Bayard dont mes pieds connaissaient par cœur la moindre crevasse, et je suis allé arpenter RTL de bureau en studio pour remercier mes collègues, découvrir les visages qui correspondaient ou non à leur voix. Des bouchons de champagne ont sauté. Ils étaient si heureux pour moi. Inutile de leur cacher ce qu'ils prenaient pour des larmes de joie. À la question « Comment va Jules ?» j'ai commencé par répondre « Il se repose ». Et puis j'ai fini par dire la vérité. Pour couper court aux commentaires, j'ai tenu à enregistrer les annonces du jour à la place de ma remplaçante qui avait la gorge nouée par l'émotion. J'étais encore en arrêt de travail, mais il n'y avait pas de convalescence à respecter au niveau de mes cordes vocales. Et puis, au moins, ça faisait écran. Pendant 5 heures, je me suis abruti de potins de couloirs, de rumeurs politiques et people, d'estimations d'audience. Et à la fin de la journée, je me suis précipité chez Fred qui a su trouver les gestes, sinon les mots, pour que je cesse de penser à mon chien 20 minutes.
J'annule la résa pour Trouville ?
Non, Fred, surtout pas.
Et tu l'auras dans la tête du matin au soir, là-bas. Sa gamelle dans la chambre, son croissant du matin. Tu l'imagineras courir sur la plage, nager avec toi, te rapporter des coquillages, aller te chercher une glace.
C'est lui qui doit essayer de m'oublier, pas moi. Mon ange, pourquoi on n'essaie pas de se faire des souvenirs neufs, nous deux? On n'a qu'à prendre un avion au hasard. Tout est neuf, maintenant que je vois. Je veux d'abord redécouvrir ce que j'aime.
Ça m'englobe?
Évidemment. Fred a pris une longue inspiration, un temps interminable, avant de laisser tomber sur un ton sépulcral le regard sur la cime des pins au ras de son balcon surplombant le bois de Boulogne.
Tu as fermé les yeux en faisant l'amour.
Comme je fais toujours, oui.
Pour ne pas me dépayser,
d'accord.
Ne triche pas avec moi, Alice. J'ai 30 ans de plus que toi.
Ce n'est pas nouveau.
Non, mais maintenant tu vois comment les autres te regardent, et tu vois qui te regarde. Et fatalement tu compares.
Normal.
C'est gentil de me faire une scène de jalousie.
Gentil? Que je pense à autre chose?
Mais ça ne marche pas.
Et si je t'offrais un autre chien?
Tu veux dire un chien normal?
Non merci, surtout pas.
Tu me promets?
Tu es chiante, Alice.
Moi aussi, je t'aime.
Je me suis endormi en travers du lit, mes cuisses entre les siennes. Au matin, je me suis réveillé en boule, les genoux sous le menton, ma position. Depuis 7 ans. J'ai refermé les yeux sous la brûlure du soleil et j'ai allongé les jambes dans le vide à la place de mon chien.